Bonsoir à tous. La mer monte et plus qu'on ne le croit, peut-être 2 mètres de plus d'ici la fin du siècle, d'après de nouvelles projections plus pessimistes que celles des experts du GIEC, parce que les pôles fondent davantage que prévu. Vincent Lambert, de nouveau maintenu en vie pour plusieurs mois. La famille se déchire, la justice tranche, énième rebondissement. L'histoire ce soir d'un autre cas similaire, un accidenté de la route et les parents qui ne s'entendent pas. Au sommaire également, les raisons du vote Rassemblement National, parole de militants à 5 jours des européennes, le nouvel l'accord de Brexit de Theresa May, un package avec nouveau référendum. On est à Londres pour tenter de comprendre. Tarantino en projection en ce moment à Cannes. Eva Béton vous dit ce qu'elle sait du film. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on parle de cash, de fric, de flouze, de grisby, de pognon, de thunes, de blé. On parle d'argent liquide, celui que vous avez dans les poches. Alors que les achats se dématérialisent partout, en France aussi. Nous sommes encore très attachés à l'argent liquide parce que tout laisser à notre carte bancaire, au sans contact, au paiement avec nos portables, ça rassure pas vraiment sans doute parce qu'on maîtrise mieux l'argent liquide. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
Ce n'est pas la première fois que les scientifiques tentent de prédire la montée du niveau des océans avec le réchauffement climatique et ce n'est qu'une prévision, mais elle est plus alarmiste que la dernière réalisée par les experts du GIEC, c'était en 2014. L'étude publiée aujourd'hui par l'Académie américaine des sciences est celle de 22 experts et ils estiment que le niveau des océans pourrait donc monter de 2 mètres d'ici la fin du siècle. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
C'est la fonte des pôles qui est en premier mise en cause et c'est donc plus grave que le pire scénario envisagé jusqu'ici.
Oui, dans le scénario le plus optimiste, le niveau de la mer augmente de 69 cm à la fin du siècle. Il augmente de 1,11 m dans le pire des scénarios, c'est-à-dire une planète à plus 5 degrés en 2100. À un tel réchauffement, il y aurait même 5% de risque que l'élévation du niveau des océans dépasse les 2,38 m. Ces évaluations sont jusqu'à 2 fois plus alarmistes que les derniers travaux du GIEC en 2013 qui font référence. Pourquoi ? Eh bien, parce que le rôle de la fonte des calottes glaciaires était sous-estimé, explique la glaciologue Catherine Ritz.
Dans les travaux du GIEC, il n'y avait quasiment pas de l'influence de l'Antarctique sur le niveau des mers, parce que c'est des travaux qui sont parus depuis cette époque-là. Donc c'est en grande partie à cause de l'Antarctique qu'il y a ce désaccord.
La fonte des calottes glaciaires n'est pas la seule responsable de la hausse du niveau des océans, mais c'est la principale. La débâcle de l'Antarctique et du Groenland pourrait faire monter à eux seuls le niveau des océans de 50 cm à la fin du siècle, avec un risque d'emballement.
On est quand même tous d'accord sur une valeur le plus probable de 50 cm et on ne peut pas exclure des excursions jusqu'à, enfin pas des excursions parce qu'on n'en revient pas, mais des valeurs jusqu'à 180 cm juste pour les calottes glaciaires.
En septembre prochain, le GIEC doit rendre un nouveau rapport très attendu sur les océans. Il intégrera ses dernières évaluations sur la fonte des calottes.
Et toujours à propos de nos mers et de nos océans, merci Sandy, entre la Corse et l'île d'Elbe en Méditerranée, ce sont des tonnes de déchets plastiques qui dérivent. Ils forment une sorte d'île de plusieurs dizaines de kilomètres portée par les courants.
La justice décide donc une nouvelle fois du sort de Vincent Lambert en état végétatif depuis 10 ans.
Oui, il commençait à glisser hier vers la sédation profonde. Et continue, il est de nouveau maintenu en vie depuis aujourd'hui. La justice donne raison cette fois aux parents du tétraplégique, des catholiques intégristes qui veulent désormais que leur fils soit transféré dans un établissement spécialisé, alors que sa femme, son neveu, souhaitent eux l'arrêt des traitements. On verra s'ils vont en cassation. C'est la deuxième fois que la justice stoppe l'arrêt des soins. La première, c'était en 2013. Mais cette affaire n'est pas la seule en France. Voilà ce qu'on pourrait appeler l'autre affaire Vincent Lambert, le cas de Mathieu Matard, victime d'un accident de vélo, lui, en 2014, à 37 ans, est maintenu en vie depuis. Et là aussi, Christine Wurtz, des parents qui se déchirent.
L'histoire de Vincent Lambert, c'est aussi celle de Mathieu Matard, le fils de Daniel.
On le maintient en vie, quoi. Il est alimenté, hydraté par des tuyaux. Il ne peut pas parler, on ne sait pas s'il nous entend. Il ne peut pas marcher, enfin il ne peut rien faire, quoi. Il me regarde, je ne sais pas.
Depuis 5 ans, Mathieu vit dans une clinique à Rouen. Un vivant mort, résume son père, qui souhaite qu'on arrête les traitements. Mais la mère de son fils s'y oppose.
Je ne comprends pas du tout l'acharnement de la maman de Vincent Lambert, comme je ne comprends pas mon ex-femme, qui, elle, dit ben, c'est pas une vie, mais c'est sa vie. Pour moi, c'est pas une vie, quoi. C'est aussi simple que ça. C'était un mec qui faisait du rock, il partait à travers le monde entier faire des treks et tout ça. Enfin, il est... Je suis un peu l'inverse des parents Lambert. Moi, je voudrais que Mathieu, il meure.
Daniel a réclamé un nouvel examen du cerveau de Mathieu pour savoir si les choses ont évolué en 4 ans, mais les médecins refusent. Et ce père de famille dévasté milite depuis pour que chacun fasse connaître sa position.
Que chacun écrive ses directives anticipées. Moi, j'ai fait les miennes. On dit qu'on ne veut pas d'acharnement. Et on nomme une personne de confiance. Ils sont obligés d'en tenir compte, les médecins.
Pour Mathieu, malheureusement, Daniel sait bien qu'il n'y a plus grand-chose à faire.
Je voudrais, là, à travers aussi un référendum d'initiative partagée, peut être la solution pour que la loi puisse évoluer. Parce que la loi Claeys-Leonetti, que je connais bien, ne répond pas à toutes les attentes. La preuve, c'est qu'on en est encore là aujourd'hui. Quoi.
Christine Wurtz, France Bleu Normandie pour France Inter.
Et si vous voulez savoir concrètement comment se passe la rédaction des directives anticipées, vous avez toutes les infos sur franceinter.fr. Seulement 13% des Français les ont rédigées. La justice encore avec ce coup de filet dans les milieux antispécistes, c'est-à-dire pour l'abolition de l'élevage. Une dizaine de personnes arrêtées ce matin et placées en garde à vue. Ils sont tous membres de l'association Boucherie Abolition et ils auraient un lien avec les opérations illégales menées mi-avril dans plusieurs exploitations agricoles pour libérer, Mathilde Lemaire, comme ils disent, les animaux.
Dès 6h ce matin, les interpellations ont eu lieu un peu partout en France, notamment en région parisienne, à Tours, Nice et Toulouse. Il s'agit de membres, voire de responsables de l'association Boucherie Abolition, comme Solveig Halluin ou Vincent Aubry. Ils sont 12 placés simultanément, donc en garde à vue, des gardes à vue qui devraient être prolongées demain matin. En cause, les récentes actions que l'association a menées dans plusieurs fermes de l'Orne, l'Eure et l'Eure-et-Loire. En décembre, mais surtout mi-avril, il s'était introduit illégalement dans des exploitations pour libérer, je cite, les animaux de leur prison, des poules, dindes et truies en l'occurrence. Sur leur pancarte, on lisait des slogans tels que « Aidons-les à sortir de l'enfer » ou encore « Les prisonniers ne se boycottent pas, ils se libèrent ». Ces militants luttent pour l'abolition pure et simple de l'élevage. Lors de ces opérations, ils s'étaient filmés à visage découvert. Les vidéos avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a permis aux enquêteurs de retrouver leurs traces. C'est le parquet d'Evreux qui est saisi de cette affaire. Pour vol aggravé, dégradation en réunion, violation de domicile, notamment les militants encourent des peines de prison ferme.
La France n'a pas été la seule fichée par Monsanto. Le groupe allemand Bayer, qui a racheté le géant américain l'an dernier, annonce que des fichiers similaires existent dans 6 autres pays d'Europe. Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Royaume-Uni.
La politique à 5 jours, Sébastien, des élections européennes.
Emmanuel Macron dit dans la presse régionale qu'il ne peut pas laisser l'Europe se disloquer et il laisse Bernard-Henri Lévy parler après le déjeuner à l'Élysée avec une douzaine d'écrivains européens. Le philosophe s'en prend au petit caïd populiste instrumentalisé par Steve Bannon, l'ancien stratège de Trump qui fréquente désormais Marine Le Pen. Le Rassemblement National, toujours donné au coude à coude avec la liste de la majorité pour le scrutin de dimanche et qui continue de battre la campagne. Jordan Bardella et ce soir à Villebleuvin dans Lyon avec sa patronne. L'occasion de questionner les militants, Maxence Lambrec, sur leur motivation pour ces élections.
C'est une terre propice au RN en pleine France périphérique où Bruxelles paraît loin, beaucoup trop loin.
J'avoue, je suis une ancienne communiste.
Et Gisèle se dit maintenant patriote.
On n'est pas citoyen de l'Europe, on est citoyen de la France. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas décider de choses importantes. Si Bruxelles dit non, c'est non. On est quand même capable de gérer notre France.
Affaiblir Bruxelles, renégocier les traités, ce n'est pas le premier moteur du vote RN.
Je vois mon papa qui a 80 ans qui gagne 800 euros par mois, alors qu'il a travaillé toute sa vie par exemple. Et par contre, les autres, ils arrivent, on leur donne tout dans le bec, je peux pas supporter.
Le premier truc, c'est la fermeture des frontières.
On est bien ici, mais c'est un petit cocon qui va devenir envahi probablement. Et ici, on laisse rentrer tout le monde et moi, je peux pas.
Susciter la peur autour de l'immigration fonctionne donc toujours très bien. Marine Le Pen a réuni ici au second tour en 2017 53% des voix. Son absence de bilan encourage aussi certains. Et si on essayait le RN ?
40 ans qu'on est droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Faut du changement, faut que le français se réalise un petit peu avant que ça soit trop tard.
Question politique, j'étais pas calé en fait, question politique. Donc je pourrais pas vous dire voilà un parti plus que l'autre. Mais toutefois, je pense que ça pourra faire changer les choses.
Une simple envie de changement donc et le désir aussi de donner un carton rouge à Emmanuel Macron. Villebleuvin, Maxence Lambrec, France Inter.
Les européennes encore, Édouard Philippe continue ses déplacements lui sur le terrain ce soir à Valenciennes et Bruno Le Maire joue la dramatisation dans les pas de l'entretien du chef de l'État à la PQR sur fond de menaces sur l'euro et de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le patron de Bercy au micro de Bertrand Galichet.
On a trop tardé pour mettre en place un budget, trop tardé pour mettre en place une union bancaire, trop tardé pour mettre en place une union des marchés de capitaux. Ça fait des mois qu'on discute, des mois. Maintenant, il faut décider.
Est-ce que c'est vraiment la cohésion ou la dislocation de l'Europe qui est en jeu ? Ou est-ce un peu quand même un épouvantail qui est agité ?
Non, je pense que la dislocation est une vraie menace pour l'Europe. C'est-à-dire des États qui se divisent, qui ne mettent pas en commun leurs ressources, qui ne respectent pas les règles. Regardez, il y a certains États membres de la zone euro qui disent voilà, les règles de déficit budgétaire, de dette, dans le fond, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. Au bout du compte, ça conduira à la dislocation de la zone euro. Si la monnaie commune, l'euro, disparaît, demain, c'est le retour de l'inflation, qui est un impôt sur les plus modestes. C'est la fin de la stabilité monétaire et financière dans la zone euro, et c'est l'incapacité à résister aux sanctions extraterritoriales américaines ou à la montée en puissance de la Chine. Enfin, que chacun réalise cela et qu'on vienne pas nous chercher dans 6 mois, 1 an ou 2 ans en disant « Ah, vous nous avez pas averti que l'euro aujourd'hui pouvait être menacé par la montée des nationalistes ».
La Chine, toujours en opposition frontale avec les États-Unis, avec l'opérateur Huawei que Donald Trump veut priver de logiciels américains, du système Android de Google notamment. Mesure dangereuse, dit le géant chinois, qui appelle l'Union européenne à réagir et qui promet de rassurer sur les risques supposés d'espionnage au profit de Pékin. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
La France, elle, a pris ses précautions avant de faire confiance au groupe chinois en matière de 5G.
Effectivement, car la France, elle aussi, est méfiante. Depuis plusieurs années, les activités de Huawei sont sous surveillance, notamment l'aspect équipementier du constructeur chinois, car Huawei, c'est de la téléphonie mobile, mais c'est aussi le leader mondial des équipements télécoms, les antennes et routeurs, et c'est le numéro 1 sur la 5G. Celle-ci, on le rappelle, doit arriver d'ici 2020. La France donc surveille et prend ses précautions. Exemple, en octobre dernier, SFR décide d'installer une antenne 5G Huawei dans ses locaux situés juste en face du ministère de la Défense à Paris. Et depuis, une loi est en préparation, elle est actuellement dans les tuyaux à l'Assemblée nationale, qualifiée de loi anti-Huawei par ses détracteurs. Elle prévoit notamment de renforcer le contrôle des équipements de réseau mobile, le contrôle géographique en particulier. Son but, c'est écrit noir sur blanc, préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Dans ces conditions, on peut donc se permettre de n'écarter aucun acteur sur la 5G. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a confirmé cette position déjà prise par Emmanuel Macron la semaine dernière, car développer la 5G sans Huawei, avec Nokia et Ericsson, les concurrents, c'est tout à fait possible, mais sans eux, c'est prendre le risque d'avoir du retard sur son déploiement et de voir flamber les prix.
Adrien Toffolet, 1 millier de postes menacés chez General Electric à Belfort, alors que le groupe américain devait en créer autant. Il assure que le marché des centrales à gaz est en recul, mais les salariés dénoncent, eux, une vision à court terme. Ils étaient plusieurs centaines ce matin sur le site pour accompagner Faustine Calmel la sortie d'une turbine à gaz.
La turbine de 840 tonnes passe le portail de l'usine sous les yeux émus d'Éric. Il travaille sur ces machines depuis 25 ans.
Pour toutes les machines qui sortent de l'usine, c'est une fierté, puisque on sait qu'elles sont passées aux essais avec brio, que nos clients sont satisfaits. Les gens sont des très bons professionnels à Belfort. On a toujours prouvé la qualité de nos travaux. Il faut montrer qu'à Belfort, on a encore une industrie qui peut réussir.
Et pourtant, l'activité est menacée. General Electric avance l'effondrement des commandes en Europe et la concurrence des énergies renouvelables. Mais pour Kevin, c'est la logique financière qui prime dans le groupe américain.
Qui font des milliards, qui ont beaucoup de bénéfices, qu'ils ont perdu, allez, quelques millions parce que le marché de la turbine baisse. Mais c'est pas pour autant qu'il faut supprimer des postes pour que les actions reprennent à 30 euros. C'est ce qu'ils veulent.
La défense de l'outil industriel, les élus aussi tentent de la porter. Union Sacrée assure le sénateur Les Républicains Cédric Perrin.
On est présent et on essaye tous ensemble, je crois, du lutte tout bord, salariés, syndicalistes, etc., population belfortaine et autres. Je pense qu'il est important qu'on se mobilise tous et puis qu'on soit présent pour soutenir ces salariés comme on en a beaucoup besoin.
Des élus qui sont reçus demain matin à l'Élysée. Emmanuel Macron connaît bien ce dossier. C'est lui qui était ministre de l'économie au moment du rachat d'Alstom par General Electric en 2015.
Le repreneur de l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord pourrait déposer le bilan. British Steel demande un prêt d'urgence de plus de 33 millions d'euros au gouvernement britannique sous peine de faillite. Si le prêt n'est pas accordé, des administrateurs pourraient être nommés pour gérer le deuxième producteur d'acier d'Angleterre. Lui a fait connaître la gastronomie britannique dans le monde, mais ses restaurants sont également en faillite au Royaume-Uni. Le chef Jamie Oliver, 25 restaurants seraient concernés, 1300 emplois menacés. Le Royaume-Uni, où Theresa May vient de proposer aux députés son nouvel accord de Brexit, Antoine Gignot. La Première ministre ouvre aussi la voie à un possible second référendum.
En fait, c'est un marché, un marchandage presque, que Theresa May propose aux députés. Votez pour mon texte, leur dit la Première ministre, et vous aurez la possibilité de vous prononcer à la Chambre des communes pour ou contre un deuxième référendum. Il y aura, dit-elle, à l'intérieur du projet de loi, un paragraphe qui vous autorisera à organiser un vote sur le sujet. La Première ministre appelle surtout l'ensemble des députés à se rassembler derrière elle.
J'ai absolument tout essayé pour trouver une solution. J'ai fait des compromis. Et maintenant, je vous demande de faire vous aussi des compromis. Ce nouvel accord sur le Brexit propose de nouveaux changements pour protéger les emplois, garantir les droits des travailleurs et les standards environnementaux. Avec cet accord, on garde des partenariats étroits dans la sécurité.
Theresa May propose aussi de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière temporaire, uniquement pour les marchandises, et jusqu'à ce que le pays change de gouvernement, sans donner de date précise. Pas sûr que ce soit suffisant. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, l'a répété ces derniers jours. Il y a eu des discussions avec le gouvernement. Elles sont désormais terminées. Elles n'ont pas abouti. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Ferrari salue son ami Niki Lauda.
Le pilote autrichien de Formule 1, mort hier à 70 ans, trois fois champion du monde dans les années 70 et 80, deux fois avec l'écurie italienne. C'est au volant d'une Ferrari qu'il avait eu l'accident qu'il avait laissé défigurer en 76 sur le circuit du Nürburgring. La F1 perd un seigneur pour celui qui a été son équipier et son adversaire Alain Prost. Quadruple champion du monde. Trois nouveaux dans la liste de Didier Deschamps pour les trois prochains matchs de l'équipe de France de football. L'amical contre la Bolivie le 2 juin à Nantes. Puis les qualifications pour l'Euro 2020 en Turquie et en Andorre. Alors Guillaume Matin, qui sont les trois nouveaux venus?
Le premier, c'est Mike Maignan, meilleur gardien de Ligue 1 cette saison avec Lille, récemment récompensé au trophée UNFP. Il épaulera Alphonse Areola, le Parisien prendra la place de numéro 1 pour laisser au repos Hugo Lloris, qui disputera la finale de la Ligue des Champions dans 10 jours. Quant à Steve Mandanda, en difficulté cette saison avec l'Olympique de Marseille, il n'est pas là, mais le sélectionneur ne lui a pas fermé la porte définitivement malgré ses 34 ans. Didier Deschamps a également débloqué le compteur tricolore de Clément Lenglet, le solide défenseur du FC Barcelone, auteur d'une saison exceptionnelle avec le champion d'Espagne. Il prendra la place en défense centrale du Parisien Presnel Kimpembe, bientôt opéré pour une pubalgie. Et puis troisième joueur qui débute sa carrière en bleu, le milieu de terrain lyonnais Léo Dubois. L'ancien Nantais n'a joué que deux petits matchs avec l'équipe de France Espoir en 2016. À noter le retour de l'ancien Toulousain Wissam Ben Yedder, auteur de 30 buts et 11 passes décisives cette saison avec le club espagnol du FC Séville. Sixième buteur européen devant le Portugais Cristiano Ronaldo.
Et les Bleus champions du monde recevront la Légion d'honneur 4 jours plus tôt avant leur premier match à Nantes. Ce sera à l'Élysée. Quant à Olivier Giroud, 32 ans, lui aussi dans la liste des appelés de Didier Deschamps, il prolonge d'un an avec Chelsea. Lui vient d'atteindre le sommet de l'Everest pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Le Sherpa népalais Kamirita Sherpa, il bat également son record du nombre d'ascensions du toit du monde, 24 fois à 8848 mètres. Des vedettes, en veux-tu, en voilà, ce soir à Cannes, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, toute l'équipe du dernier Tarantino sur le tapis rouge. Le cinéaste est en compétition avec Once Upon a Time in Hollywood. Le film est projeté en ce moment. Eva Bettan est dans la salle du Palais des Festivals. Critique à venir donc, mais déjà, Eva, des tas de choses à dire sur ce film.
Promis, je ne sais rien, mais je dirai tout. On sait qu'au moment où la lumière s'éteint, tout ce qu'on croyait savoir s'évanouit. Entre-temps, il y aura eu un regard, celui de Tarantino, et cela change tout. Un scénario, une distribution, les beaux gosses ensemble, DiCaprio et Brad Pitt, sans cela, ce n'est rien. De même que le Hollywood de la fin des années 60, avec en arrière-plan, dit-on, un meurtre qui a marqué l'époque, celui de Sharon Tate. On sait encore que le film a coûté 90 millions de dollars et que malgré tout, le studio qui le produit joue le jeu de la compétition, prend le risque d'une première devant le monde entier, risque calculé bien sûr, mais on peut imaginer que le désir de Tarantino d'être à Cannes a compté. Tarantino, le fils pas ingrat, qui n'a pas oublié que la Palme d'Or pour Pulp Fiction, il y a 25 ans tout juste, lui a fait gagner, il le dit lui-même, 10 ans dans sa carrière. Tarantino, le cinéphile frénétique, le cinéphile, imbibé des films qu'il a vus, qui ne croit au soleil que s'il l'a vu sur grand écran. Est-ce qu'on en fait trop? Peut-être, mais il y a du second degré là-dedans. L'excitation fait partie du jeu, la projection d'un film de Tarantino, c'est déjà du cinéma. À Cannes, Eva Bettan, France Inter.
Et encore à propos de cinéma, rendez-vous demain 9h10 sur Inter chez Augustin Trapenard, la très talentueuse Adèle Haenel. Adèle Haenel, je vais y arriver, pourquoi je mets un Z? Je vous annonce la mort du créateur du brushing.
Ah, il paraît.
Vous saviez,
vous
Patrick Hallès. Non.
Oui, ça se voit.
Ah, c'est moche. 88 ans, Patrick Hallès, coiffeur de star de Catherine Deneuve à Jackie Kennedy, selon sa bio officielle. Inventeur de cette mise en forme des cheveux brossés et mouillés, chauffés au séchoir en même temps. C'est pas mon cas. En tout cas, ça permet de ressembler à quelque chose quand on sort du salon. Cette invention, c'était en 1964. Moche et brushing.
Voilà. Bah, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Sébastien. Allez, merci beaucoup et on se retrouve demain. Ouais. Ne bougez pas. En revanche, vous qui nous écoutez, on est là et nous, on bouge pas non plus.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Allez Sébastien Léas, bonne nouvelle, ça s'améliore demain.
Ah oui, et même dès cette nuit, puisque les averses vont se dissiper au plus tard vers 1h du matin. Demain, seules les Alpes du Sud verront des averses bourgeonnées, pouvant s'accompagner d'orages demain après-midi. Par débordement, la Côte d'Azur pourra aussi y voir une petite averse transiter. Partout ailleurs, le temps sera sec demain. En début de journée, des nappes de brouillard et de nuages bas donneront une impression grise, notamment au sud de la Garonne, sur la Bretagne Nord et entre la vallée de la Loire et les vallées auvergnates. Le soleil et les belles éclaircies finiront par s'imposer, même si le ciel sera parfois bien voilé. Et puis en revanche, des nuages plus épais vont aborder les côtes nord de la Manche et vont s'engouffrer l'après-midi jusqu'aux Ardennes, à l'Île-de-France et à la Normandie, atténuant nettement l'impression lumineuse.
Et puis encore quelques degrés de plus, allez.
Oui, et les températures vont poursuivre leur hausse avec une ambiance parfois assez douce demain après-midi, notamment sur la moitié sud. Les maximales seront quasiment partout au-dessus de 20 degrés. Il fera 20 degrés à Arras et à Cherbourg, 21 degrés pour Vannes, Besançon et La Rochelle, 22 degrés à Porto Vecchio, Strasbourg, Paris et à Tours. On ira jusqu'à 23 degrés à Lyon, Toulon et Niort, 25 degrés pour Mont-de-Marsan, Montauban et Marseille, et même 27 degrés du côté de Béziers.
Sébastien Léas de Météo France, merci.